A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est peut-être la dernière année où les consommateurs américains peuvent faire leurs achats de Noël avec leur Apple Card. Le partenariat entre Apple et Goldman Sachs aurait en effet du plomb dans l'aile. La banque, qui a perdu des milliards de dollars avec cette carte de crédit, voudrait se désengager du produit, ce qu'Apple aurait fini par accepter. Est-ce que l'Apple Card est dans l'impasse ? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple verserait des royalties dérisoires à ARM. Les ministres français sont sommés d'utiliser une messagerie instantanée française et Robert De Niro accuse Apple de censure. Nous sommes le samedi 2 décembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Les cartes de crédit ont chauffé durant le Black Friday et pourtant, tout ne se passe pas comme prévu pour l'Apple Card. Salut Christophe, ça va ?
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Est-ce que tu as la chance d'avoir une carte bancaire en titane ?
Non. Alors, pour tout dire, j'ai eu une carte bancaire en métal. J'en garde pas un très bon souvenir parce qu'elle est très lourde. T'as l'air très bête avec ta carte très lourde. Et de temps en temps, elle rentrait pas très bien dans certains appareils. Alors, je sais pas ce que donne une carte en titane, mais voilà, j'ai pas d'expérience en carte en titane pour le moment.
Oui, c'est quand même bête. Une carte bancaire, tu peux pas utiliser dans tous les appareils.
Oui, c'est, voilà. Mais on te vend ça comme un plus-produit en plus, hein. Vous avez une carte
en titane. Oui.
C'est un peu mieux, paraît-il, pour l'environnement, mais bon, le plastique, ouais. Des fois, a ses avantages.
Alors, on va parler tout de suite de l'Apple Card. Donc, lancée en 2019, l'Apple Card est une carte de crédit en titane, donc, disponible exclusivement aux États-Unis. Elle permet aux consommateurs américains de faire leurs achats et de gérer leurs comptes avec l'expérience Apple. Donc les paiements apparaissent dans l'app Wallet, tout comme des graphiques pour suivre les dépenses. Il n'y a pas de frais, enfin du moment qu'on rembourse à temps. Hein. Et au printemps, Apple a même intégré un compte épargne. Donc Apple n'est pas seul derrière ce produit. Il y a aussi Goldman Sachs qui s'occupe de toute la partie bancaire, donc un gros morceau. Et c'est là où ça coincerait. Donc Goldman Sachs, qui voyait l'Apple Card comme un moyen de s'adresser aux particuliers, a en fait perdu des milliards de dollars avec cette carte, et les relations avec Apple seraient compliquées depuis le début. La banque d'affaires chercherait maintenant à se désengager du produit, et d'après le Wall Street Journal, Apple a pris note de cette volonté et pourrait couper les ponts dans 12 à 15 mois. Est-ce que ça signifie que l'Apple Card va disparaître, Christophe ?
Ah, les négociations avec Apple, c'est quand même quelque chose, hein. Et à la fin, presque tout le monde se casse les dents. Bon, alors Goldman Sachs, hein, quand on y pense, on peut se dire que ce n'est pas des enfants de cœur. On peut également penser que quand ils ont vu l'Apple Card, ils ont dit « tiens, il y a un gros coup à jouer ». Et voilà qu'il cherche par tous les moyens à se dégager de ce programme après avoir perdu des milliards de dollars. C'est fou quand même. Enfin bon, les témoignages montrant qu'il est difficile de travailler avec Apple sont nombreux. Hein. Google paie quand même une fortune pour être le moteur de recherche par défaut dans Safari. Alors certes, ils gagnent de l'argent, hein. Enfin voilà, ils n'en perdent pas comme Goldman Sachs, mais ça reste un deal qui est quand même hors norme par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'industrie. Voilà, il y a Intel, quand Intel travaillait avec Apple, c'était pas simple. Apple a également par le passé fait avaler les pires couleuvres à HP quand ils ont voulu avoir leur iPod à eux. Bref, travailler avec Apple, c'est pas une sinécure. Mais je crois pas du tout, ceci dit, à la fin de l'Apple Card, avec, on va dire, Apple Pay, la stratégie Apple Pay, mais faut le prendre au sens large. Apple est quand même une véritable fintech. Je pense qu'Apple gagne beaucoup d'argent et c'est des choses, contrairement à d'autres services, après ça rentre tout seul, on a envie de dire. Mmh. Et ben alors, la question c'est, est-ce qu'Apple va trouver un nouveau partenaire à martyriser voilà. Ou si elle va faire comme Revolut et créer sa propre infrastructure bancaire petit à petit, à la fois pour maximiser ses marges et pour être plus agile, parce que ça reste quand même le problème de l'Apple Card et d'autres services d'Apple, c'est qu'ils sont cantonnés aux États-Unis, des fois au Canada et à 2-3 autres pays, mais ça ne va pas plus loin. Et je pense que l'idée d'Apple, malgré tout, c'est de penser au niveau mondial. Et donc, ça peut être l'occasion pour elle de revoir sa stratégie de fond en comble.
Oui, et puis il y a eu Mark Gurman qui disait que Apple était en train de bâtir un écosystème financier, si on peut appeler ça comme ça, pour Apple Pay Later, pour des autres produits, en lien avec le monde bancaire. Donc, c'est clairement un domaine dans lequel ils vont continuer d'investir.
Oui, et puis Apple est habitué aux usines à gaz et le monde bancaire en est une. Donc, c'est un bon premier bon point. Le deuxième, c'est que Apple a des liquidités, a les liquidités justement pour mettre en place un tel service bancaire. Donc voilà, tout laisse à penser qu'elle va finir par y aller seule. Après, c'est l'avenir nous le dira, peut-être que ça passera aussi par le rachat d'une structure qui a déjà une certaine expérience dans le domaine. J'en sais rien, mais bon, en plus, ils ont a priori 12 ou 15 mois, donc je ne m'inquiète pas à court terme, en tout cas, pour l'Apple Card. Et c'est vrai qu'en plus, par rapport à ce que tu disais, Mark Gurman avait par exemple révélé qu'Apple avait réfléchi à lancer un service de bourse intégré déjà à ses briques existantes. Donc voilà, à mon avis, ils sont plus dans l'idée d'une expansion que de se retirer.
Effectivement, oui. On va aborder un autre sujet dont tu as un peu parlé, celle des partenariats un peu compliqués avec Apple. Alors, là, ça concerne ARM. Donc les royalties versées par Apple à ARM ne s'élèveraient à pas grand-chose, en fait. Donc pour remettre les choses dans le contexte, Apple paye une licence à ARM pour pouvoir utiliser les plans de ses processeurs. C'est donc un élément extrêmement important, puisque sans plan, on n'aurait pas de puce A17 ou M3, par exemple. Donc Apple paierait 30 centimes par puce. Au total, Apple pèserait pour moins de 5% du chiffre d'affaires annuel d'ARM au travers de cet accord. C'est moitié moins environ que les deux grands clients que sont Qualcomm et MediaTek. Alors ARM, vu cette situation, aurait tenté régulièrement de renégocier les termes du contrat, mais sans y parvenir. Quand on voit qu'Apple s'est aussi accaparé toute la production en 3 nanomètres de TSMC, est-ce qu'il faut comprendre en fait qu'Apple a sabote toute l'industrie ?
Je sais pas, mais quand on disait qu'Apple était dur en affaires, voici un exemple de plus. Parce que se dire que Qualcomm et MediaTek pèsent deux fois plus lourd qu'Apple, c'est quand même assez dingue. Alors Apple, malgré tout, n'a jamais hésité à sortir le porte-monnaie quand il s'agissait de s'assurer un avantage qui peut être important vis-à-vis de la concurrence. Alors, l'exemple le plus célèbre concerne l'iPod. À l'époque, quand Apple avait sorti l'iPod Nano, elle avait acheté juste avant l'essentiel de la production de mémoire flash, s'assurant une tranquillité sur le marché des baladeurs MP3 pendant 12 à 18 mois. Donc là, elle a fait à peu près le même coup avec TSMC, la gravure en 3 nanomètres. Mais malgré tout, quelque part, Apple n'a pas bien le choix, parce que vu sa taille, elle a souvent des volumes qui sont extrêmement significatifs par rapport à la concurrence. Alors, si elle veut éviter des problèmes insurmontables de stock, elle doit mettre en place des partenariats forts et y mettre les moyens s'il le faut. Toujours pour revenir à l'iPod, l'iPod mini, Apple, je crois que c'était peut-être le pire produit de son histoire. Il y avait des délais d'attente pour la commande d'un iPod mini au début qui était au moins de 3 à 4 mois parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de disque dur pour l'iPod mini. Alors, la difficulté d'Apple, c'est de miser sur le bon cheval après. Hein. Pour l'heure, par rapport au niveau des processeurs, c'est TSMC qui fait la course en tête. Mais que va-t-il se passer le jour où Samsung se met à être plus performant en matière de gravure? Ça, on a hâte de le voir, parce que ce n'est pas dit que TSMC reste le numéro 1 comme ça, ad vitam aeternam. Mais ceci dit, c'est l'une des autres forces d'Apple jusque-là, c'est aussi de réussir à faire jouer la concurrence entre ses fournisseurs. Elle est toujours... Voilà, alors, on a souvent des news comme ça. Elle a, par exemple, deux fournisseurs pour ses écrans ou pour ses dalles, et puis tout d'un coup, on entend un troisième larron entrer dans la course. Et évidemment, cela permet à Apple de tirer les prix vers le bas. Donc oui, enfin, je n'irai pas jusque-là, mais Apple sait faire quand même la pluie et le beau temps dans cette industrie. Ouais.
Sans transition, on va parler de la France. La Première ministre a fait récemment passer une circulaire ordonnant à tous les ministres et à leur cabinet d'arrêter d'utiliser WhatsApp, Telegram ou encore Signal. Alors elle justifie cet ordre par d'éventuelles failles de sécurité dans ses messageries. À la place, la Première ministre demande d'utiliser aux agents CHAP, c'est une messagerie qui est réservée aux agents de l'État, ou bien Olvid, une messagerie française qui est disponible pour tout un chacun, et qui a récemment été certifiée par l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors Olvid est normalement très sécurisé, avec du chiffrement de bout en bout pour les messages. Bon, ça c'est devenu plutôt standard dans les messageries instantanées. Mais il y a également du chiffrement de bout en bout pour les métadonnées, ainsi que l'absence d'un annuaire centralisé, ce qui évite une éventuelle corruption d'un tiers de confiance. Elisabeth Borne présente Olvid comme, je cite, « une prise de conscience en matière de sécurité », mais aussi une avancée vers une plus grande souveraineté française. C'est plutôt sage comme décision, cet ordre, non ?
Donc le gouvernement a une prise de conscience en matière de cybersécurité, mais aussi une avancée vers une plus grande souveraineté française. Et c'était quand ça ? En 2023 ? On va dire que c'est un progrès. En tout cas, je me félicite qu'il fasse la promotion d'une solution qui est un peu plus décentralisée que les autres. Voilà, c'est toujours ça de pris. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on nous cherche à nous faire croire que c'est mieux parce que c'est français. Enfin, c'est un petit peu ce qu'il y a en toile de fond. Mais aussi, si cette solution elle est sûre, c'est aussi parce qu'on a ôté des fonctionnalités, entre guillemets, qui sont les plus pratiques, notamment l'annuaire par rapport aux autres solutions. Donc, oui. Sur certains points, c'est assez positif. Mais bon, j'ai tendance quand même... Moi, les politiques, j'ai toujours trouvé bizarre que les systèmes de messagerie. J'ai toujours, voilà, par exemple, le succès de Telegram, sachant que c'est quand même russe à la base. Moi, ça m'a toujours interloqué. Je sais pas. C'est.
Oui, parce qu'apparemment, c'est très utilisé dans les cabinets, par les agents.
Ah bah c'est ça. Hein, tu fais de la politique, on te l'installe par défaut. Hein, sinon, tu fais rien avec ton WhatsApp ou ton message. C'est évident. Hein. Alors il y a deux trois petites bricoles qui m'embêtent quand même. C'est la multiplication des outils, CHAP, Olvid, et on pourrait pas avoir une solution unique et puis une préférence au niveau européen, ce serait pas plus simple. Il y a Signal exactement. Pourquoi ne pas partir de Signal et de l'améliorer ou de l'amputer de quelques fonctionnalités pour que il réponde à un cahier des charges qui conviennent au gouvernement. Ça, déjà, c'est un truc qui me paraît un peu étrange, parce qu'en plus, c'est totalement open source. Enfin, je crois que c'est le cas de... Enfin, je ne sais pas si il est disponible, il me semble, le code source de Olvid.
Oui, c'est aussi disponible en open source, oui.
Voilà. Alors, le truc qui, en tant qu'on va dire observateur, m'agace au plus haut point, donc là, on te parle de chiffrement, de protection des conversations... On a l'impression que ça marche uniquement dans un sens. Donc, évidemment, et on imagine bien que Elisabeth Borne doit pouvoir discuter avec son ministre de la Défense en toute sécurité, ça c'est évident. Mais en même temps, le même gouvernement, et alors je ne parle pas uniquement du gouvernement français, on compte quand même pas les tentatives de projets de loi visant à réduire la sécurité des différents systèmes de messagerie instantanée. Il y a quand même un côté, là, moi ça, toujours un petit peu de mal. C'est vraiment un très, 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 très grand écart quand même.
Et on va terminer le tour de l'actu avec une polémique dont Apple se serait bien passé lors d'une remise de récompense pour le film Killers of the Flower Moon, qui est coproduit par Apple. Robert De Niro a accusé Apple d'avoir censuré son discours. L'acteur voulait fustiger la culture du mensonge de l'ancien président Donald Trump et lui opposer le travail de vérité effectué par des réalisateurs de cinéma. Sauf que ce passage n'est pas apparu sur son téléprompteur. Alors, quand il s'est aperçu de la coupe, Robert De Niro s'est insurgé contre Apple et les organisateurs de la soirée. D'après le magazine Variety, c'est bien quelqu'un de chez Apple qui a expurgé le texte de toute référence à Trump. Mais il n'y aurait pas eu de volonté de censure, c'était juste le résultat d'une mauvaise communication sur différentes versions du texte, c'est pas très clair comme explication. Enfin, au bout du compte, ça revient au même, Apple a voulu passer sous silence les critiques de De Niro sur Trump. Apple qui censure un artiste, c'est du jamais vu, Christophe ?
Mais non. Robert De Niro, il a juste voulu gagner du temps et il a fait écrire son discours à ChatGPT. Et bon, c'est bien connu, ChatGPT, il n'aime pas trop les conflits, il aime bien arrondir les angles. Alors, la partie consacrée à Trump, il l'a oublié, tout bêtement. Pas Apple qui va faire des choses comme ça. Non mais alors là, tu me laisses quand même une véritable autoroute à troll. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que la signification de Think Different a vraiment beaucoup changé chez Apple en 20 ans ? Qu'un influenceur, c'est beaucoup plus malléable que qu'un artiste ? Enfin, je l'ai toujours dit, qu'en se lançant dans cette histoire d'Apple TV+, Apple n'avait que des coups à prendre, ben voilà, c'est la 155e confirmation depuis le lancement de ce service. Alors, ce qui est très marrant, c'est que s'il y a peut-être une personne aux États-Unis, enfin, c'est peut-être pas la seule, mais qui doit en faire des cauchemars toutes les nuits de la possibilité d'une réélection de Donald Trump, c'est quand même Tim Cook.
Oui, c'est possible. Et
c'est bizarre. Ce qui est assez fou, c'est que je pense que Tim Cook pourrait sans doute co-signer les yeux fermés ce que De Niro a dit.
Oui.
Mais voilà, mais le sens de la réelle politique chez Tim Cook prend très 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 vite le dessus pour le meilleur ou pour le pire.
Eh bien, merci Christophe pour ce tour de l'actu. Bon week-end, à la prochaine.
Bon week-end à tous.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille. Bon week-end.